الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, on vous a dit, on vous a prévenu, on vous a rappelé que la fatigue pouvait avoir une influence ce soir. Eh bien, je vais vous dire immédiatement que le sujet est tellement important que je sais à quelle heure je commence, mais le sujet est important, je ne sais pas à quelle heure je finirai.
Donc,
et je vous demande de ce point de vue-là d'avoir l'attention nécessaire à un sujet qui me paraît très important. Important pour l'islam, important pour les musulmans et les musulmanes, et important pour votre pays. Alors, immédiatement, vous m'avez posé la question, et le sujet, c'est vous qui l'avez choisi, chère sœur, c'est celui de la question du militantisme des femmes. Et c'est une question qui est importante parce que souvent, la façon dont on pose la question est une façon de montrer comment on aborde le problème. Et j'étais très content de voir, parce que j'ai eu un peu peur pendant les deux jours qui ont précédé, qu'on annonce une conférence pour les femmes et que nos frères ne soient pas là. Et donc je suis très heureux de voir que la moitié de l'assistance est une présence masculine, une présence fraternelle, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous. Tant il est vrai que si, comme l'a rappelé Fouad tout à l'heure, la question de la femme s'est souvent posée en Occident dans un débat de la femme contre l'homme, aujourd'hui dans nos sociétés, c'est l'homme et la femme pour les droits de la femme au nom de ce que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de réaliser. C'est ensemble que nous avons à relever ce défi, non pas les uns contre les autres, et donc il est particulièrement important que nous soyons tous au fait de cette question de la femme pour pouvoir ensemble nous engager à défendre les droits de la femme, la réalité de sa position sociale telle que le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseignent, et non pas comme nos sociétés ont parfois eu tendance à la réaliser. Parce que vous le savez tous, mais encore au-delà du fait de le savoir, il faut réagir à cela, entre ce que l'islam nous demande et ce que la société et ce que nous produisons comme société, il y a un océan de différence. L'islam n'est pas ce qu'aujourd'hui nous en faisons, et en particulier pour la question de la femme. Donc je suis particulièrement heureux de traiter ce sujet, parce que ce sujet nous met directement en face d'une responsabilité majeure. Nous pouvons tous nous asseoir et dire, avec beaucoup d'aisance, l'islam est la dernière des révélations révélées, et c'est vrai. L'islam est pour nous la lumière et la vérité, et c'est vrai. L'islam est pour nous le chemin et le sens de toute notre vie, et c'est vrai. Mais dire ceci ne suffit pas, encore faut-il regarder la réalité en face et savoir que ce que nous produisons aujourd'hui comme société, au niveau islamique, comme au niveau des relations que nous avons entre les hommes et les femmes, comme au niveau également de la non-discrimination naturellement donnée normalement en islam, eh bien, le travail qui doit être fait est phénoménal. Je ne dirais pas qu'il est important, je dirais qu'il est phénoménal. Les processus de réforme qui doivent intervenir dans nos sociétés aujourd'hui pour redonner la place qui lui est due à la femme et le droit qui est le sien, demandent et exigent de chacun qu'il en fasse une de ses priorités. Pourquoi une de ses priorités? Parce que l'on sait aujourd'hui, tous les paramètres sur le plan social et économique le montrent, que Une société qui se développe, une société qui prend son destin en main, y associe en permanence les femmes. Dans toutes les statistiques concernant le développement, les femmes sont en avance sur le travail de développement qu'elles font. Et quand une tâche leur est donnée, elles sont souvent celles qui la réalisent le mieux. Au sud du Sénégal, sur des champs qui ont été octroyés à des paysans, c'est un chiffre phénoménal qui vous fait réfléchir. Quand il a été donné des champs, les champs dont s'occupaient les femmes étaient 3 fois plus productifs que ceux qui étaient donnés aux hommes. 3 fois plus. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité d'un engagement sur lequel les chiffres sont clairs. Et quand nous traversons le monde musulman, nous nous apercevons aussi aujourd'hui que le mouvement de renouveau islamique passe pour beaucoup par l'énergie que les femmes mettent à se mobiliser. Non pas pour leur seule liberté, mais au nom de l'islam, pour leur liberté telle que l'islam le leur donne, pour les droits qui sont les leurs. Et donc de ce point de vue-là, il faut savoir aujourd'hui que dans le monde musulman, l'une des grandes mobilisations vient de nos sœurs, et quand j'ai pu discuter avec mes frères ici en Côte d'Ivoire, ils m'ont confirmé que le mouvement des femmes était un mouvement de plus en plus important. Il est en ceci à l'image de tout ce qui se passe dans le monde, mais encore faut-il que ce mouvement soit orienté pour et dans l'islam, et non pas contre les hommes. Et là, il faut que les choses soient claires.
Allahu Akbar.
Alors on va avoir une soirée où on va entendre de temps en temps
à chacune de se préparer.
Alors je sais bien qu'on va avoir de temps en temps des satisfactions d'un côté et de l'autre. Toujours est-il que pour ce qui nous concerne, il faut qu'ensemble nous développions cette question. Je vous propose donc une réflexion en 3 moments. Le premier moment qui me paraît incontournable, c'est le moment où on va revenir aux sources. Pour avant de se poser la question de savoir quel est strictement le militantisme de la femme aujourd'hui, avoir une image beaucoup plus claire de ce qu'est la femme en islam et de son rôle plus généralement. Et non pas immédiatement entrer dans une revendication militante sans savoir et sans connaître la réalité de l'identité de la femme et de son rôle dans ce que l'islam dit. Et pour ce faire, donc, dans cette première partie, je vais, de façon synthétique, vous imaginez bien que dans une conférence comme celle-ci, le sujet ne peut pas être traité complètement, mais en tout cas, on peut lui donner un cadre, et ce cadre sera sur, en tout cas, 5 points, ce qui concerne l'être de la femme, ce qui concerne son éducation, ce qui concerne la question de la pudeur, ce qui concerne le mariage, et ce qui concerne le travail. 5 points qui vont être traités. Qu'est-ce que dit l'islam de ce point de vue-là? Pour qu'on ait une image claire. Ensuite, à partir de ceci, on peut faire une comparaison entre ce que dit l'islam et la réalité de nos sociétés. Je le dirai de façon globale, vous pourrez vous-même compléter par rapport à la réalité, vous le ferez d'ailleurs immédiatement, entre la réalité ivoirienne et ce que dit l'islam. Pour ensuite s'engager dans une réflexion, ce sera la troisième et dernière partie, de savoir ce que nous avons à faire, inshallah, pour l'avenir, à savoir un projet qui serait un projet de véritable réforme à l'intérieur de nos communautés pour nous rapprocher du modèle de l'islam, ensemble et non pas les uns contre les autres, inshallah. Et donc, prenons cette première partie et arrêtons-nous à considérer ce que dit l'islam sans jamais oublier, et vous le verrez de temps en temps dans mon exposé, qu'il y a entre la réalité de ce que dit l'islam et la réalité de nos sociétés un écart phénoménal sur lequel nous aurons à réfléchir. La première des choses, en général, trop souvent, je dirais pas en général, je dirais trop souvent, un certain nombre de penseurs musulmans et de savants, immédiatement quand ils parlent de la femme, vont tout de suite à la question de l'épouse. Comme si la femme était d'abord considérée en islam comme l'épouse. Or c'est une erreur. C'est une erreur, elle montre bien qu'on pose mal le problème. Parce que l'islam, avant de parler de l'épouse, parle de l'être de la femme. Et de l'être de la femme dans ce qu'elle est avant de devenir une fonction sociale et en particulier une fonction d'épouse. Qu'est-elle en islam? Et là, de ce point de vue-là, il faut que nous disions de la façon la plus claire qui soit que l'égalité de l'être, ce qu'on appellerait en philosophie l'égalité ontologique, mais l'égalité de l'être est totale entre l'homme et la femme devant Dieu. Et nous en avons un certain nombre de versets, je ne vous en cite qu'un. Dans Sourate An-Nisa, c'est le premier verset, Barda'ouzou billahi minash shaytanir rajim, qu'est-il dit, Ya ayyuhan nas, ittaqou rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Ô vous les hommes, regardez l'interpellation. L'interpellation va directement, immédiatement, non pas aux ceux qui portent la foi. Ya Yohannes, ô vous les gens, craignez Dieu qui vous a créé d'un être unique et qui a tiré de cet être sa femme et qui a répandu des hommes et des femmes en grande quantité. Premier élément de l'origine de la femme et de l'homme d'un être unique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est l'expression fondamentale de l'égalité absolument totale de l'homme et de la femme devant Dieu dans l'être. Ce n'est pas fini. Non seulement c'est une égalité dans l'être, mais c'est également une égalité dans la pratique cultuelle, c'est-à-dire de la façon dont l'homme et la femme doivent servir Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ. Naqira, que dit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait le bien effectivement, qu'il soit homme ou femme, en étant croyant, ceux-là entreront dans le paradis et ils ne seront pas, ils ne subiront aucune injustice. Le propos est clair. Celui ou celle qui fait le bien en étant croyant ou croyant, entrera au paradis. Donc de ce point de vue-là, même si certains sont allés chercher parfois quelques hadiths qu'ils ont tirés dans le détail en oubliant la globalité, le Coran, comme le prophète Rasulullah sallam, nous enseigne de la façon la plus claire que nous sommes dans une égalité totale dans nos devoirs et nos responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala, immédiatement dans la relation. Donc la relation qu'une femme a avec Dieu, comme la relation qu'un homme a avec Dieu, elle est exactement la même. Nous n'avons pas cette expression, et nous en parlerons également tout à l'heure, même de la vision dont parlait d'ailleurs tout à l'heure le frère Fouad, de la vision biblique qui serait de mettre en évidence que la femme a été tentée parce qu'elle était plus faible et qu'elle a elle-même à son tour tenté Adam alayhi salam. Cette histoire, elle n'apparaît pas dans le Coran, et en particulier le verbe qui est utilisé ici, c'est les deux, le duel, c'est l'homme et la femme. Et si on regarde toutes les occurrences de l'histoire d'Adam alayhi salam, on a beaucoup plus l'impression, et c'est ce qu'ont mis certain nombre de savants, que c'est l'homme qui a été d'abord tenté et non pas la femme. Donc toute l'histoire biblique d'une femme tentatrice qui tenterait l'homme et qui a amené le péché originel ne revient pas dans le Coran. Même si l'expression de la faute originelle arrive parce qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en s'approchant de l'arbre duquel il ne devait pas s'approcher, eh bien, apparaît dans le Coran, mais pas du tout de la même façon. Trois choses diffèrent. Première des choses, ce n'est pas la femme qui tente l'homme. Deuxième élément, qui apparaît également comme étant fondamentalement différent, c'est que les deux, le duel met en évidence le fait que les deux sont engagés dans ce processus de désobéissance. Et ce qui apparaît de façon beaucoup plus importante également, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, il n'y a pas de péché originel en islam, de faute qui serait due à la femme. Et si vous aviez connaissance plus profondément de ce que dit la littérature française ou la philosophie sur cette histoire-là, vous verriez que la femme en Occident a souvent été entachée du mal à cause de cette histoire du péché originel. Et que dans l'islam, ça n'existe pas. Le péché originel n'existe pas, la faute de la femme n'existe pas. Nous sommes à égalité responsables de nos actes et responsables de nos actions sur le plan général, comme nous sommes responsables également du culte que nous devons à Dieu. Tout le monde, chacun d'entre nous, doit faire la prière de la même façon, doit réaliser son jeûne avec les spécificités qui sont liées à l'organisme, au physique, en période d'indisposition par exemple, cela est connu. Raison pour laquelle nous trouvons dans le Coran également « Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal sabirin wal sabirat » des formules qui mettent en évidence quoi ? Exactement le même dispositif d'égalité. C'est donc un premier plan sur lequel il faut être très très clair et ne pas immédiatement, et j'aimerais bien de ce point de vue-là encourager mes frères qui, eux, sont les garants de l'autorité religieuse et éthique dans la communauté de Côte d'Ivoire, qu'ils habituent leur communauté à entrer dans la question de la femme, non pas dans son rôle immédiatement d'épouse, mais dans la réalité de son être en tant qu'être. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'un être avant de parler sa fonction, on montre non seulement qu'on a compris la révélation, mais on respecte l'être au-delà uniquement de sa fonction. Et ce n'est pas rien de respecter l'être dans sa fonction, parce que c'est le message essentiel de l'islam. On ne peut pas d'un côté dire « Regardez ce que vous avez dit dans la Bible sur les femmes » en disant « Vous vous dites qu'elle est la responsable du péché originel. » Alors on se réjouit de ne pas être sur le même plan que cette image de la femme. Mais en même temps, quand nous on parle de nos épouses, on les cantonne d'abord dans leur fonction d'épouse avant de considérer la fonction fondamentale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé avant même que nous en ayons le choix. Elles sont des êtres à respecter dans leur être, qui agissent comme des êtres qui portent la foi et qui réalisent l'acte de foi comme chacun d'entre nous. C'est important parce qu'ensuite on va comprendre ce qu'est cette fonction sociale et même la fonction du voile ou la fonction de la pudeur dans la société islamique. On y reviendra tout de suite. Deuxième point, l'éducation. L'éducation également, qui est particulièrement un sujet de débat. Parce qu'on voit souvent, et en particulier en Afrique, je le sais, comme vous, pour y avoir un peu vécu et l'avoir beaucoup visité, on dit tout et n'importe quoi sur l'éducation des femmes, vu du point de vue de l'islam, parce que souvent on lit cette réalité au travers du prisme de nos coutumes et de notre façon de vivre. Or, il faut faire la différence. Une chose est la façon dont, de façon ancestrale, nous avons vécu. Une chose est ce que dit l'islam. Et l'islam est un facteur dans les sociétés, toutes les sociétés, un facteur de libération. Ce n'est pas un facteur, c'est un facteur de libération par les principes, non pas un facteur d'enracinement d'une discrimination. Jamais. Jamais il n'est venu pour enraciner une discrimination. Il y a des choses qui sont claires en islam. Et si une société qui ancestralement pouvait être discriminatoire au lieu des femmes, l'islam, dans ses principes, est venu pour la libérer. Le premier élément, vous le savez, c'est qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et même avant même que vienne la révélation, qui avait-il ? On enterrait les jeunes filles vivantes. Et vous avez la formule, « وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » Quand la jeune fille enterrée vivante se demandera au nom de quel mal elle a été tuée et enterrée vivante. Elle a été tuée. Eh bien ça, c'est le début de la révélation. Quand l'islam apparaît, c'est effectivement une pratique coutumière chez les Arabes. Ils n'aiment pas être les parents de jeunes filles. Ils considèrent que c'est une honte. Et le Coran, première étape, va suivre un processus de libération et d'affirmation des droits de la femme qui va du fait de cesser la tuerie au fait d'imposer l'éducation. De cesser la tuerie à imposer l'éducation. Trois exemples. Le premier des exemples, effectivement, c'est celui-ci, le fait de cesser l'enterrement vivant. Le deuxième exemple, c'est une parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Que dit-il ? Il dit deux choses. La première, c'est, la formulation, elle est importante, celui d'entre vous qui n'enterre pas sa fille, donc les parents, qui n'enterrent pas leur fille, qui n'insulte pas leur fille, et qui ne font pas de différence dans l'éducation entre leur fils et leur fille, sont promis au paradis. Écoutez bien, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui parle, c'est pas votre frère Tariq. Et les prophètes, ça c'est Sahih al-Bukhari, qui dit, celui d'entre vous qui ne tue pas sa fille, qui ne l'insulte pas, et qui ne fait pas de différence dans l'éducation entre sa fille et son fils, le paradis lui est promis. Donc c'est vraiment une formule fondamentalement importante. Comme il dit également, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. La demande de la connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Donc il met l'objectif de la connaissance comme étant l'obligation pour la femme comme pour l'homme, mais en même temps il met en évidence la nécessité de l'éducation. Le prophète alayhi salam dit également, dans un hadith également sahih, man ala jariyatayn hatta tablugha fa yawm al-qiyamati ana wa huwa kahatayn. Et il a montré ses deux doigts. Qui éduque des jeunes filles, deux jeunes filles, jusqu'à ce qu'elles atteignent leur puberté, il est le jour du jugement dernier avec moi comme les deux doigts de cette main. Celui qui éduque donc deux jeunes filles, qui sont ses enfants, jusqu'à ce qu'elles atteignent la puberté, il se retrouve avec qui ? Avec le prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu rabbi alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier au paradis le plus haut. C'est dire l'orientation fondamentale de l'égalité de l'éducation et de la nécessité de faire en sorte que cette éducation soit promue pour tout le monde. Et quand je dis ceci, je n'oublie pas la question que vous m'avez posée, à savoir le militantisme de la femme. Parce que le début du militantisme de la femme, c'est de faire respecter son être, on y reviendra, mais de s'appuyer sur une véritable indication. Le militantisme commence et il suit exactement le cheminement de ce que je suis en train de tracer, de l'être à l'éducation. Troisième des choses que nous avons, troisième plan, la pudeur. Ah, la pudeur, il faut en dire quelque chose. Il faut en dire quelque chose parce que, en islam, la pudeur et la distinction et la préservation d'un mélange qui amènerait de passer du respect de l'être au respect de l'apparence d'une femme ou d'un homme est quelque chose qui est restreint, voire combattu, si c'est en dehors des liens licites, à savoir ceux du mariage. Et c'est une pudeur qui touche beaucoup de choses. Elle touche au premier chef, vous le savez, le regard. Il y a une façon d'être pudique avec le regard. On y reviendra. Il y a une façon d'être pudique avec son comportement. Il y a une façon d'être pudique avec ses vêtements. Et dans l'ordre, nous dirions, être pudique avec son regard, être pudique par ses vêtements, être pudique par son comportement. Et chaque fois, on va dans quelque chose qui est un peu plus approfondi. Mais pour les deux, d'ailleurs. Et on va voir pourquoi. Le prophète, alayhi salam, a dit « Inna min ma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-oula, idha lam tastahi fasna ma shit. » Parmi les propos que les hommes ont retenus provenant des prophéties précédentes, des premières prophéties, il y a ceci. Si tu n'as pas de pudeur, si tu n'as pas de crainte pudique, fais ce qu'il te plaît. Au sens de, tu vas faire n'importe quoi. La pudeur est un des enseignements fondamentaux de l'islam. La pudeur dans la préservation de son regard, la pudeur dans la préservation de sa tenue vestimentaire, comme la pudeur de ce comportement. Parce qu'on peut être habillé pudiquement et se comporter de façon impudique, vous le savez. Il ne suffit pas d'avoir un vêtement de pudeur pour avoir atteint un niveau de pudeur dans le comportement. Et donc dans cette perspective-là, raison pour laquelle, au niveau du regard que nous dit le Coran, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Deux choses. Dis aux croyants, est-il dit dans le Coran, de préserver, de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Donc deux choses. Le regard et de ce point de vue-là, effectivement, la dimension de se préserver au niveau du comportement, sa sexualité, sa chasteté. Les savants ont mis en évidence une chose qui est très très intéressante aussi. Dis aux croyants de baisser min absarihim. En arabe, c'est une partie de leur regard. Ah, et ça c'est intéressant. Parce que certains ont pris la formule totalement. C'est-à-dire que vous verrez des frères, et vous avez des sociétés, où on ne peut même pas se regarder. C'est-à-dire ils ne regardent même pas les femmes. Et ils ont développé une société, certains peuvent être choqués de cela, où le regard seul le regard, quand vous lui demandez quelque chose ou quand vous lui parlez, c'est déjà trop. Et d'autres ont dit, mais c'est pas de cela qu'il s'agit. Min absarihim, c'est-à-dire quelque chose du regard. Lequel? C'est quand ça ne devient pas clair dans ce que tu cherches avec ton regard. Et qui le sait, ça?
Dieu.
Après Dieu, toi. Tu sais très bien si t'es pas clair. Non mais les sœurs sourient en pensant que c'est que pour les frères. Il y a la même chose dans le verset qui suit. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِمْ. Donc, يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. Ça, بارك الله فيك. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. Donc ici, ce qui est mis en évidence, dit aux croyants de la même façon, de préserver de leur regard et de préserver également leur chasteté. On doit mettre en évidence que le verset commence par qui? Par les hommes. Puis ensuite, dans le verset qui suit, on parle des femmes. Et parfois, on a l'impression que les hommes, ils ne voient que le deuxième verset. Pourquoi? Parce que dans le deuxième verset, il y a quelque chose qui va se compléter. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. Quelque chose est à rajouter dans le verset ici qui concerne les femmes et qui est mis en évidence, et qu'elles ne montrent de leurs atours que ce qui en apparaît, et qu'elles rabattent sur elles-mêmes leur voile, ou leur, effectivement, leur voile. On va le traduire de cette façon-là pour faire court. Qu'est-ce qui est mis en évidence dans la différence de ces deux versets? C'est que la pudeur, c'est d'abord quelque chose qui part du cœur. Pourquoi? Parce que quand il est question des hommes, il est mis en évidence ici une chose. Qu'est-ce qui est mis en évidence pour les hommes? Regardez, qu'on s'arrête un tout petit peu. Allah SWT dit, ceci est plus pur pour eux. Pour qui les hommes? On parle des hommes ici. Et il est dit, et Dieu sait bien ce qu'ils font. Qui? Les hommes. À quel niveau? Puisque les hommes, on parle de leur regard et de leur chasteté, Allah SWT dit, il n'y a pas de spécificité qui se rajoute à la tenue vestimentaire, si ce n'est celle, effectivement, on va en parler de la pudeur, mais en disant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très bien ce qu'ils font. À quel niveau? À l'intérieur de leur cœur, comme avec leur corps. Et que la pudeur, elle commence par une bonne disposition du cœur. Tu préserves ton regard quand ton cœur est sain et se souvient de Dieu. Mais il faut préserver son regard avec beaucoup de conscience. Raison pour laquelle le prophète, quand Ali, karramallahu wajha, lui avait demandé ce qu'il en était quand il regardait les femmes, il lui dit, la première, tu ne peux pas faire autrement, mais la deuxième, tu deviens responsable. C'est-à-dire que quand tu vois une femme pour la première fois, tu ne peux pas, c'est la première fois, tu n'es pas maître de ça. C'est ce que tu fais la deuxième fois qui compte. Est-ce que tu baisses ton regard et puis c'est fini, ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je crois que vous voyez bien. Donc en l'occurrence, le prophète alayhi salam dit, la première tu ne peux pas, mais la deuxième tu maîtrises. Et tu peux ne maîtriser ton regard que quand tu as le cœur qui se souvient de Dieu. Parce que si tu oublies Dieu, tu perds ton regard. Et tu seras attiré. Pour ce qui concerne les femmes, il est mis en évidence, effectivement, et c'est l'un des versets sur lesquels s'arrêtent les savants, pour mettre en évidence que par rapport à ce qui est dit, il y a la même chose, mais avec un supplément qui est lié à deux choses. La première des choses, c'est effectivement le fait de se couvrir le corps avec des vêtements qui ne doivent être ni transparents ni moulants. La yassif ou la yashif. C'est-à-dire effectivement qui ne montrent pas. Pourquoi ceci? Et pourquoi est-ce qu'on peut comprendre qu'il est demandé aux femmes par rapport à la tenue vestimentaire, et qui va jusqu'au fait de rabattre leur voile, et immédiatement, quand ils ont reçu ces versets, les épouses et les femmes qui étaient dans la compagnie du prophète, sont allées se couvrir d'un voile. Pourquoi? C'est l'expression de la pudeur telle qu'elle est demandée dans le Coran, et qui est considérée par l'ensemble des savants comme une obligation, mais attention, une obligation qui n'est pas et qui ne peut pas faire l'objet d'une contrainte. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. C'est une démarche que l'on doit apprendre par le cœur. Il a fallu 15 ans pour que ce verset soit révélé. 15 ans. 15 ans d'éducation spirituelle pour qu'on comprenne le sens du voile. Mais qu'est-ce que dit ce voile en fait? Quelque chose que des savants ont mis en évidence et qui est vrai. En disant, s'il est demandé à la femme de se protéger dans son apparence, c'est qu'en fait la faiblesse n'est pas chez elle. La faiblesse, elle est chez l'homme. C'est lui qui a beaucoup plus de difficultés à préserver son regard. Et elle dit deux choses, la femme, de ce point de vue-là, à l'homme. Elle lui dit, écoute-moi bien, devant Dieu, en respectant ce verset, je t'impose de me considérer comme un être dans mon cœur et non pas comme un corps dans mon apparence. Tu ne t'arrêtes pas à mon corps, tu dois respecter mon être. Et c'est pour ça que je m'habille de cette façon-là. Et la deuxième des choses, c'est d'envoyer un message très clair. C'est parce que Dieu sait que nous sommes faibles qu'il a fait en sorte qu'il fallait montrer par le vêtement la nécessité de les renvoyer à la force de la foi. Parce que la réalité, c'est que les êtres humains, les hommes, de ce point de vue-là, ont une faiblesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala compense par cette tenue vestimentaire. En disant une chose à laquelle on doit réfléchir. Le regard que les hommes portent sur les femmes est différent du regard que les femmes portent sur l'homme au niveau du corps et de l'esthétique. Et ça, je le dis en Europe, comme je le dis en permanence, il y en a qui disent « non, c'est pas vrai, on peut discuter ». Mais la réalité, elle se montre quand même. Tout ce qui se fait aujourd'hui comme production sur le corps utilise la femme. Pourquoi en Occident? Parce qu'il y a quelque chose de particulier, qu'il y a quelque chose qui effectivement répond à la nature. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on commence à se raconter des histoires. Il y en a qui le nient, mais la réalité le montre. Regardez le monde. Quand il y a beaucoup de liberté sur le plan du corps et de la sexualité, qui est-ce qu'on met en avant dans son corps? L'homme? Mais non. D'abord la femme. Pourquoi? Parce que c'est le regard de l'homme qui est particulier. Raison pour laquelle ici, on a cette injonction particulière. Comme également l'autre verset de Sourate An-Nur. « Ya yuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa' al-mu'minin » يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِنَّ ذَلِكَ أَنَّ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَيُؤْزَيْنَ. C'est la sourate c'est l'autre sourate sur laquelle, l'autre verset sur laquelle se reposent les savants pour mettre en évidence une chose, que le voile, justement, rabattre sur elles leur voile, c'est la meilleure façon pour elles de se faire reconnaître, au sens de se faire reconnaître comme étant des êtres de piété et de pudeur, aussi avec l'histoire que quand elles allaient prier ou quand elles se déplaçaient la nuit, elles étaient perturbées, gênées par des gens qui venaient sur la route et qui gênaient les femmes qui pouvaient se déplacer. Et là, le Coran apporte cet élément-là. Sur la base de ces deux versets, avec lesquels il faut ajouter le hadith célèbre du prophète, qui voyant passer Asma devant lui, lui dit « Ô Asma, il ne convient d'une femme, quand elle a atteint la puberté, qu'on ne voit d'elle que son visage et ses mains. » Des savants ont mis en évidence que ce hadith est mursal, c'est-à-dire qu'il a un degré d'authenticité qui est moindre. En fait, dans la réalité, d'autres savants sont venus mettre en évidence que si ce hadith-là est de ce degré-là, d'une authenticité qui peut être moindre, on l'appelle mursal, d'autres voix et d'autres hadiths viennent le confirmer. Et en particulier, celui qui est le plus sévère en matière de hadith à notre époque, Al-Albani, qui lui va beaucoup plus loin parce que lui dit donc ce hadith est vrai, et malgré ceci dans sa discussion sur le hijab, lui dit que lui, de son point de vue, le fait de ne voir que les yeux et de couvrir même le visage est mieux pour lui. Mais malgré ceci, il s'oblige avec beaucoup d'honnêteté à dire ce hadith, il est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'est pas authentique. Donc celle qui se couvre entièrement et qui laisse le visage et qui laisse les mains agissent dans la tradition islamique. Il y a d'autres opinions qui sont beaucoup plus minoritaires en islam, qui vont jusqu'au niqab, c'est-à-dire le fait de ne voir que les yeux. Il s'appuie sur des versets et des interprétations. On ne dira pas qu'ils sont dans les erreurs, on respectera, mais on demandera à ceux qui vont jusque-là de ne pas dire que les femmes qui n'y vont pas ne respectent pas l'islam, puisqu'on a les sources et les références. Donc de ce point de vue-là, c'est important. Et on comprendra une chose également, la pudeur est donc demandée aux hommes, également dans leur tenue vestimentaire. Et moi, je suis très surpris parfois de voir que des hommes pensent que tout est sur la femme et qu'eux ne doivent pas faire attention à leur pudeur, même vestimentaire et même comportementale. Et on voit tout de suite, d'ailleurs, un frère qui n'est pas complètement clair dans son comportement. Ses yeux ne sont pas maîtrisés, son comportement n'est pas clair, sa façon de parler ne l'est pas. Et parmi ceux-ci, وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, a dit le prophète, il y a une autre chose sur laquelle je n'ai pas insisté, la voix. Alors certains sont allés très très loin sur la base de hadiths qui ne sont pas considérés comme authentiques en disant sautul mar'a aura, en disant la voix de la femme est quelque chose qui ne doit pas être dit. Ils sont allés très très loin et vous avez dans certains villages de certains pays des femmes qui, pour pouvoir aller acheter quelque chose, disent à son mari, qui lui dit ce qu'elle veut, elle lui parle qu'à lui. Ceci est considéré par la majorité des savants comme n'étant pas un principe islamique. Et il y en a qui vont très très loin de ce point de vue-là. Il reste quand même que tous ceux qui ont dit que la voix de la femme n'était pas du tout considérée comme quelque chose qu'elle ne devait pas utiliser en public. Donc on a le droit de parler, on a le droit de parler comme vous venez de le faire en public, donc il n'y a pas de problème pour la majorité des savants. Tous mettent en évidence une chose, attention à la façon dont tu utilises ta voix. Parce qu'on voit tout à fait qu'il y a certaines personnes, que des femmes ou des hommes, manquent de pudeur dans la façon dont ils ont de parler. Parce qu'ils en jouent. Et que là, tous les savants disent, tu peux parler, mais il ne faut pas commencer à jouer avec la voix. Et ça, c'est le principe de pudeur. C'était le troisième principe que je pense qu'il est important de rappeler. Dans le mariage, maintenant, c'est le quatrième point. Alors, dans le mariage, c'est celui sur lequel nous allons rester un tout petit peu, tout en étant, en essayant d'être synthétique. Vous connaissez dans Surat al-Rum des Romains le verset qui met très clairement les choses en place. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la chose suivante. Et parmi ces signes, il a créé de vous, tiré de vous des épouses pour que vous reposiez auprès d'elles et il a établi entre vous l'affection, la miséricorde et la tendresse. Il y a certes en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Donc, que nous est-il d'ici? J'aimerais simplement vous rappeler que Surat al-Rum, ce verset-là, est le dernier verset révélé concernant les femmes et leurs relations avec les hommes. Et nous savons une chose, c'est qu'un dernier verset, ce n'est jamais un hasard dans le Coran. Toute personne qui a, de ce point de vue-là, fait des études islamiques sait que d'un point de vue pédagogique, il y a les premiers versets qui mettent en évidence le fait qu'on ne doit pas tuer les jeunes femmes, et il y a le dernier verset qui, dans le sens du mariage, dit attention. Parmi ces signes, attention, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ, c'est-à-dire que un des signes que Dieu nous a créés, c'est ça que ça veut dire. Un des signes qu'il a créé l'humanité, quel est-il? Le fait qu'il a mis un homme et une femme, il a tiré des épouses, et dans cette relation, qu'a-t-il mis? C'est un de ces signes. Il a mis quoi? La tendresse, la miséricorde et quoi? Et l'affection. Mawaddatan wa rahma, de l'affection et de la miséricorde. C'est un de ces signes. C'est un des signes quand on est deux êtres dans un mariage à éprouver l'un pour l'autre de l'affection et de la tendresse. Il faut. Mais regardez ce que ça veut dire, parce que ça, il faut le méditer. Pas l'oublier, c'est pas simplement quelque chose de naturel que l'on sent, c'est un signe qui nous rappelle Dieu. À un moment donné, de s'arrêter, de penser que l'amour que j'ai pour mon mari, que l'amour que j'ai pour ma femme, c'est un signe que Dieu a créé l'humanité. Essayez de réfléchir à la profondeur de ce que ça veut dire. C'est le dernier verset révélé concernant cette situation-là. Et parfois on oublie ceci et on néglige l'affection qu'il y a entre nous. Et on néglige ces sentiments-là. Et pourtant, ici, il s'agit bien de mawadda. C'est une dimension affective. Et quand il y a un signe de Dieu, est-ce qu'on a le droit de le négliger? En d'autres termes, je vous pose une question claire. Est-ce qu'on a le droit de négliger ce qui va préserver l'affection dans le couple quand c'est un signe de Dieu? On ne peut pas. Au contraire, on va faire en sorte de pouvoir en parler et surtout rajouter à cette compréhension-là. Et puis, dans cette dimension du mariage, il a donc établi une première chose. La rencontre entre deux êtres. J'ai bien parlé des êtres au début de cette conférence. Et en disant la rencontre de deux êtres, c'est la rencontre affective et pleine de pardon et de générosité l'un vis-à-vis de l'autre. Et dans cela, il y a un signe. Et il y a même plus. Il y a même plus parce que de ce point de vue-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun » Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et là, il faut encore quelque chose qui doit être médité. Qu'est-ce que ça veut dire, elles sont un vêtement pour vous? À quoi sert un vêtement? Un vêtement, ça sert à protéger, n'est-ce pas? Ça sert à protéger des regards comme ça sert à protéger de l'extérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit des femmes et donc de nos épouses comme des maris qu'ils sont l'un pour l'autre une protection. Mais par rapport à quoi? D'abord, bien entendu, par rapport à sa foi. L'autre, quand il est présent dans l'espace du mariage, protège et fait en sorte que il il entretient la foi de l'autre. Si elle est un vêtement pour toi, et si tu es un vêtement pour elle, elle est d'abord la protection de la chose essentielle, la foi. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. L'autre chose également qui est fondamentalement importante, c'est qu'elle est une protection par rapport à l'extérieur. Tout ce qui pourrait atteindre ton cœur et perturber ta foi, comme ta volonté de rester proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle te protège, elle est un vêtement. Et l'homme est une protection, il est un vêtement. Mais regardez quelle qualité de relation il faut pour passer de l'affection au vêtement. Mon affection te protège. Tant que tu sais que tu es avec Dieu et que ton mari t'aime, tant que tu sais que tu es avec Dieu et que ta femme t'aime, tu es protégé. Mais il faut les deux. Et là, c'est l'entretien de la dimension affective dans le couple. Et ça, c'est un djihad. Parce que nous sommes très très vite négligents avec nos sentiments. Nous ramenons souvent à la maison des principes. Nous entretenons peu à la maison des sentiments et de l'affection. Et comment est-ce qu'on entretient des sentiments et de l'affection et de comprendre que c'est une protection? Ne soyons pas naïfs. Celui qui sort, et vous en particulier ici en Côte d'Ivoire, un homme qui sort dans la rue ici et qui voit ce qu'on lui montre, n'est-ce pas? De permissivité, de photos publicitaires, de ce qu'il voit à la télévision, de ce qu'il voit de la femme telle ou des femmes telles qu'elles sont habillées. Si on a un d'entre vous qui dit, moi mon frère, j'ai jamais été attiré. Moi c'est du béton, je vois rien, je ne suis attiré par rien. Je lui dis, tu vis pas dans le même monde que moi. Parce que c'est pas vrai. Parce que ce monde est plein de tentations. Il est plein de tentations. Et comment est-ce qu'on va faire pour se protéger de cette tentation? Faire semblant d'être vraiment très très solide? Dans la communauté, et ça arrive souvent, on vient dans la communauté, quand tu vois des frères dans la communauté, tu as l'impression que rien ne les atteint. Ils sont au-delà du monde. Rien. Ils sont solides, ils sont... Alors rien ne les atteint. Par contre, quand ils ne sont plus dans la communauté, tu ne sais pas ce qui arrive de leur fragilité. Et c'est ce que je dis toujours, il faudrait exactement que ce soit le contraire. Il faudrait que tu sois solide à l'extérieur et que tu puisses vivre ta fragilité dans la communauté. Mais c'est exactement ce qui doit se passer dans ton couple, dans la famille. Elle est un lieu de renforcement de ta foi pour que tu sois solide à l'extérieur. Et ceci arrive à chacun d'entre eux, exactement la même chose pour les femmes. Vivre à l'extérieur et voir des choses à l'extérieur, ça peut troubler un cœur. Il faut retrouver à la maison la force et la solidité de ne pas être troublé par l'extérieur. En d'autres termes, plus je suis plein d'affection, d'amour et de protection dans la maison, moins je suis vulnérable à l'extérieur. Et il faut partir de cette réalité-là et ne pas se voiler les yeux. Parce que nous sommes une communauté très fragile sur le plan affectif. Et que nous sommes atteints comme tout le monde. Que ce soit par les médias, la télévision, la musique, tout ceci, ça provoque en nous une nature qui est plutôt tournée vers le plaisir et l'attirance. On le sait. Solidifions nos familles. Comprenons ce que ça veut dire. Comprenons le sens de ceci. Et c'est tellement vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a vécu ça. Un jour il est à Médine et il voit une femme qui lui a plu. D'ailleurs c'est ce sur quoi certains ulama utilisent pour dire mais comment elle a pu, pour réfuter ceux qui disent qu'il faut porter le niqab. Ils disent mais comment elle a pu lui plaire si elle portait le niqab, qu'est-ce qu'il a vu? Certains vont dire jusqu'à la voyie. Ils utilisent ce hadith pour dire, mais il a dû bien voir. Et il est rapporté que cette femme lui a plu. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il a fait. Elle lui a plu, il s'en est retourné vers qui? Zainab, radiallahu anha, son épouse. Elle est un vêtement pour lui. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voyez quelle qualité il y avait d'écoute entre le prophète et ses compagnons pour que cette histoire nous soit rapportée. Vous rendez compte ce qu'ils pouvaient aussi se dire dans la fragilité de leur foi pour être solides devant le reste à l'extérieur? Ils savaient entretenir leur fragilité dans la communauté pour être solides à l'extérieur. Or nous, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On entretient un semblant de force à l'intérieur et nous sommes complètement fragiles à l'extérieur. Et c'est la même chose à la maison. C'est la même chose à la maison. On ne se dit pas nos fragilités et on les vit loin de ceux qui devraient nous donner la force. Et je demande ici vraiment qu'on regarde, ça c'est la réalité de la présence aussi de la femme au niveau de la de la demeure. Viennent maintenant, dans cette compréhension fondamentale, autre chose qui paraît important, c'est la question des devoirs et des droits dans le mariage. Alors, je ne vais pas faire un travail trop théorique, parce que je veux venir au sujet quand même, mais que l'on soit clair. Dans le mariage, l'homme a un devoir. Et ce devoir, il n'est pas discutable. Il est celui où il est mis en évidence. وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Il est dit au père, c'est-à-dire à celui qui est l'homme dans la maison, il doit donner à manger et il doit les vêtir selon ce qui est communément reconnu. En d'autres termes, ce qui est mis en évidence, c'est pour l'homme le devoir d'avoir à subvenir aux besoins de sa famille. Et dans la société islamique, une femme pourrait, depuis son enfance, et devrait, et aurait le droit depuis son enfance, de passer du statut de fille au statut de mère, d'épouse au statut de mère, sans avoir à dépenser un sou pour son entretien. C'est son droit. Attention, c'est son droit. Mais il y en a certains qui sont passés au droit qu'elle a, à un devoir de ne jamais sortir de la maison. Mais c'est pas la même chose. Elle a le droit d'être entretenue. Mais c'est pas un devoir pour elle de ne pas, c'est pas une interdiction pour elle de ne pas avoir à travailler. Vous voyez comment certains ont utilisé ce droit. C'est le droit qu'elle a. Et il est mis également ceci, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les hommes ont autorité, ont direction sur les femmes par la préférence que Dieu a voulu et parce qu'ils dépensent de l'argent. Parce qu'ils dépensent d'argent. Qu'est-ce qui est mis en évidence ici? C'est la dimension également d'une autorité qui met en évidence que l'homme a la responsabilité de la famille. La responsabilité, ce n'est pas la dictature. La responsabilité, c'est le devoir de prendre en charge financièrement et pour tout ce qui concerne le bien-être de la famille, l'ensemble des biens de cette famille. De fait, ici, on a une notion très très importante. Certains l'appelaient chef de famille, mais en islam, c'est clair. L'homme a une responsabilité par rapport à sa famille, il doit subvenir aux besoins. C'est un devoir, de ce point de vue-là, qui n'est pas ni discuté ni discutable. Mais ça ne veut pas dire dictature, et certains comprennent la direction immédiatement comme « j'ai autorité, je fais ce que je veux ». Regardez ce que dit le Coran. Vous savez que deux occurrences interviennent dans le Coran sur ce qui est la shura. Vous savez ceci. Il y a deux occurrences sur le plan social. « Amruhum shura baynahum » ils délibèrent ensemble de leurs affaires. Sur le plan social, ce sont « ils mu'minoun ». Et d'un autre, il est dit « washawirhum fil amr » il dit au prophète ﷺ après « azwat uhud » concertez-les dans des affaires. Mais il y a une troisième occurrence, celle sur laquelle on va s'arrêter maintenant, et qui met en évidence que ceci, فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا أَوْ تَشَاورٍ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. Qu'est-il dit ici? S'il décide, qui les deux, أَرَادَ, le duel ici, فِصَالًا, c'est-à-dire le fait de sevrer son enfant, après un accord entre eux ou une concertation, alors il ne leur sera pas tenu rigueur. Le terme shura est utilisé dans une affaire de famille, entre l'époux et l'épouse, pour sevrer l'enfant. Ça veut dire, effectivement, de ce point de vue-là, que si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que pour sevrer l'enfant, c'est-à-dire cesser de lui donner le sein, il faut, et on peut aller à l'accord de la entre l'époux et l'épouse, c'est d'autant plus important de comprendre que dans les affaires de famille, il y a une concertation. Oui, il y a direction dans la responsabilité, mais il y a concertation jusqu'au fait de sevrer l'enfant, qui est quand même une chose qui est tachaw, c'est-à-dire la concertation. Il y en a qui ont compris la responsabilité de famille, il n'y a que moi qui décide, c'est moi le chef. Non, tu as la responsabilité de la famille. Mais dans la famille, on se concerte parce qu'il y a des décisions qu'il faut prendre ensemble dans la famille. Même si, effectivement, il y a une responsabilité qui est la tienne, ne passe pas de la responsabilité à la dictature, mais de la responsabilité à la concertation. Et ça, c'est une chose, effectivement, qui est importante et qui met en évidence le dialogue. Et malheureusement, Et malheureusement, vous le savez, la qualité du dialogue dans les couples aujourd'hui et dans les familles est véritablement extrêmement déficitaire. On discute peu. Mais c'est vrai, vous le savez très bien qu'on discute peu. On prend peu de discussions, on a peu de discussions ensemble. Puis en plus, quand on travaille, l'homme part au travail. Si en plus la femme travaille, les deux travaillent, on s'occupe des enfants, on prend pas le temps de discuter. Puis quand on arrive à la maison, il y a plus souvent la télévision que la concertation. Dans les deux sens d'ailleurs. Parce que des fois, les maris rentrent et puis voient plus leur femme devant la télévision qu'en train de faire autre chose. Et inversement, l'homme rentre pour regarder la télévision et prend pas le temps de ce dialogue. Donc de ce point de vue-là, on a ici une orientation dans le mariage d'une responsabilité qui est un devoir pour l'homme majeur, mais de la nécessité à l'intérieur du couple de la concertation et du dialogue. Ça, c'est aussi une chose qui est et que l'on doit, dont on doit se souvenir. Autre chose qui me paraît particulièrement importante dans la relation homme-femme, parce que certains utilisent ce verset pour mettre en évidence, de ce point de vue-là, une attitude qui n'est jamais été celle du prophète Rasulullah. Il est dit dans le Coran, Allati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Qu'est-il dit? Celle dont vous craignez l'infidélité, les femmes. Vous les exhorterez. Et les savants disent au moyen du Coran, au moyen des références. Et si ça ne va pas, donc en l'occurrence, vous les exilerez dans le lit, c'est-à-dire que vous mettrez à distance et vous les frapperez. Alors, ce verset existe dans le Coran. Et alors là, certains utilisent ceci en disant, mais j'ai le droit, moi, de taper. En mettant en évidence, parce que je vais en dire un mot, la réalité de la violence dans les couples de musulmans et de musulmanes est une chose contre laquelle il faut lutter et de la plus grande et la plus rapide des urgences. Il y a une violence aujourd'hui qui n'est pas défendue par l'islam. Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui était nommé Turjuman al-Qur'an, a fait l'analyse de ce verset en mettant en évidence lui et d'autres, mais lui, je y reviendrai parce qu'il dit quelque chose d'intéressant, a mis en évidence une chose. À l'époque de la vie du prophète, al-Salam, il n'y avait pas d'exhortation. L'homme insatisfait de son épouse passait très très rapidement au fait de frapper. Et vous savez que le Coran est pédagogique, c'est-à-dire il prend d'un état et il amène à un autre, par un travail sur l'intelligence des personnes qui l'entendent. Et dans ce verset, il est mis en évidence que Allah subhanahu wa ta'ala parle à un moment à la communauté musulmane en mettant trois étapes. Et la première, c'est laquelle ? Wa'idhuhunna. Faites en sorte que quand il y a une dispute et même une crainte d'infidélité, la première des choses que vous devez faire, c'est pas frapper. Il va reculer le fait de cette attitude immédiate chez les Arabes de l'époque en disant exhortez-les au moyen du Coran et au moyen de la tradition du prophète, rassoto ça. En d'autres termes, il faut que quand tu sens que ta femme fait ou entre peut-être dans une dimension d'infidélité ou fait quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qui est quoi la référence islamique. Mais si tu dis wa'idhuhunna, ça veut dire que tu vas faire référence au Coran pour dire des choses qui sont islamiques, pas des choses qui te déplaisent à toi. Voyez la différence. S'il nous renvoie au Coran dans wa'idhuhunna, c'est-à-dire exhortez-les, comme dit Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, il nous dit donc que la référence de son mauvais comportement, c'est pas ton bon ou ton mauvais plaisir à toi. C'est ce que dit le Coran et ce que tu trouves dans la tradition du prophète, encore faudrait-il que tu la connaisses. Deuxième étape, wahjuruhunna fil madajia, c'est-à-dire éloignez-vous d'elle. Non pas les frapper. La deuxième étape, c'est éloignez-vous d'elle. Montrez-leur votre mécontentement. Et la troisième étape seulement, wadribuhun. Et là, Ibn Abbas met en évidence une chose qui est confirmée par un autre hadith du prophète, il dit de façon extrêmement légère. Et vous savez ce qu'il utilise? Il dit bisiwak. Et le siwak, vous savez ce que c'est? C'est la petite branche avec laquelle on se brossait les dents. Qu'est-ce que vous allez faire avec le siwak? Vous allez manifester vos contentements, vous n'allez pas massacrer votre épouse. À l'aide d'un siwak, vous ne pouvez pas. Or, je vous promets que quand vous êtes en Europe et même parfois en Afrique, il y a des femmes qui ressortent de relations, de couples et de violences, elles sont dans un sacré état. Elles sont véritablement maltraitées. Et là, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala prend les musulmans arabes auxquels est révélé le Coran, leur mettant trois étapes avant d'arriver à cette étape. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit attention, uniquement pour manifester votre mécontentement. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un autre enseignement. Parce que nous devons utiliser le Coran, mais la deuxième source, quelle est-elle? Notre prophète, alayhi salatu wassalam. Or, il n'y a pas un hadith, pas une version, ni dans Ibn Hisham, ni dans aucune version de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui met en évidence qu'il ait levé la main sur une de ses femmes. Or, c'est d'autres exemples. Donc, on doit comprendre la pédagogie du Coran et la réalité du prophète, alayhi salatu wassalam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a dans l'exemple du prophète le meilleur des exemples. Et donc pour nous, c'est lui qu'on doit suivre. Et si on doit suivre, c'est éviter absolument la violence parmi nous. Or, ce n'est vraiment pas aujourd'hui quelque chose qui est bien compris. Et il y en a certains, ça ne fait pas deux ou trois minutes, leur mécontentement se traduit en violence. C'est la première des choses également qui est particulièrement importante. Comme également est important maintenant ce que je vais mettre en évidence au niveau simplement des devoirs et des biens. Alors là, je vais simplement faire une énumération, je n'ai pas le temps de prendre le tout dans le mariage, mais simplement, dans cette perspective-là, de nous rappeler, avant que j'en vienne à ces éléments-là, la dimension générale. Regardez comme ça change. Un, deux êtres qui se réunissent dans l'amour et dans l'affection et dans la miséricorde. Deux êtres qui se concertent ensemble dans leurs affaires et qui deviennent le vêtement l'un pour l'autre.